émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Atelier des médias, nous continuons aujourd'hui notre enquête portant sur les violences auxquelles s'exposent en France les journalistes qui souhaitent couvrir des manifestations publiques. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés après avoir rencontré Paul Copin de Reporters sans frontières qui a observé une banalisation de la violence contre les journalistes en France. En se fondant sur les écrits d'organisations non gouvernementales et de confrères, ainsi que sur des témoignages, nous pouvons dire que le problème prend toute son ampleur durant les mouvements contre la loi travail en 2016. Les questions que nous nous posons maintenant sont celles de l'envergure et de la persistance de ces violences. C'est pour cela que nous avons fait appel à Mathias Virilli, collaborateur régulier de l'atelier. Son rôle est de recenser toutes les violences contre les journalistes durant les 3 ou 4 dernières années. Les résultats de ce recensement sont édifiants. Ils confirment qu'un problème de violence contre la presse existe bel et bien en France. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, Mathias vient nous présenter son recensement à la fin de cette émission. Revenons maintenant à notre récit. Pendant que j'épluchais les rapports et articles liés aux violences policières contre les journalistes, Constance et Marie-Stéphanie de l'Atelier des médias se sont rendus en manifestation avec Sarah Lefebvre et Thomas Status de Street Press. Nous sommes le 16 avril 2017, à une semaine du premier tour de la présidentielle.
C'est un dimanche après-midi. Marie-Stéphanie et moi allons à Aubervilliers, en proche banlieue parisienne, où a lieu un rassemblement antifasciste. Il est programmé la veille d'un meeting de Marine Le Pen, qui se tient donc le 17 avril, au Zénith de Paris, c'est-à-dire tout près d'Aubervilliers. Notre objectif est de savoir si les différentes informations que nous avons recueillies se confirment sur le terrain. Nous avons choisi un défilé jugé à risque par les observateurs. Nous voulons mieux connaître le profil des personnes qui couvrent les manifestations.
Moi c'est Clément, j'ai 19 ans, je suis encore étudiant et puis sur mon talib je suis un peu géré indépendant. Et je couvre tous les mouvements sociaux, mais pas que, je fais aussi de la politique, enfin plein de choses, mais surtout en ce moment des manifestations avec la présidentielle et j'ai fait toutes les lois de travail et voilà.
Lui, c'est Clément Lanoux. Il parle vite, donc vous ne l'avez peut-être pas compris. Il est JRI, c'est-à-dire journaliste reporter d'images. Il est venu en compagnie de plusieurs collègues, dont Stéphanie. Tous deux et plusieurs autres professionnels sont vêtus de noir.
On est souvent habillé dans les couleurs foncées parce que c'est une couleur neutre et ça permet de ne pas être reconnaissable ni par les policiers qui veulent parfois cibler les journalistes ou repérer les gens parce qu'on filme tel ou tel truc. Et aussi par les manifestants qui aussi sont pas forcément... pour la venue des journalistes, même si on respecte les règles et que moi je sais que je filme pas les têtes, quand je les filme je les floute, mais ça permet d'avoir une couleur neutre et pas être repérable de très très loin dans une foule pour les gens qui voudraient nous menacer ou qui voudraient pas de nous.
Toi quand même dans ta préparation de manifestation, je vois que vous avez Stéphanie un casque en main, un casque de vélo en main avec presse écrit dessus.
Ouais, j'en ai aussi.
Tu en as aussi.
Du coup, ouais, dans l'équipement de la manifestation, évidemment, on a des casques avec marqué. Moi, je le montrais tout à l'heure, j'ai un casque avec écrit en gros, en blanc, presse. Je veux être identifiable sur mon casque qui est marqué presse en gros. Quand t'as de loin, on sait que je suis journaliste. J'ai aussi un brassard presse. Quand j'ai pas mon casque, je le mets quand c'est un peu tendu. Comme ça, les gens voient bien que je suis journaliste. Moi, je suis là pour filmer, pour montrer ce qui se passe et je veux que les gens ne pensent pas que je le cache, quoi.
Bien entendu, les casques servent également à protéger des projectiles qui peuvent venir de toutes parts. Je n'en avais pas ce jour-là, je n'étais pas la seule, mais une grande majorité de journalistes en portaient. Tout le monde avait aussi un foulard ou équivalent pour protéger des gaz lacrymogènes. Revenons à Clément. Il a un profil journalistique particulier puisqu'il est également étudiant et tout jeune. Il a 19 ans, il l'a dit, et suit des cours d'informatique. C'est important de le souligner puisque ce sont ces profils atypiques électrons libres qui sont, selon notre enquête, les plus susceptibles d'être visés par les vexations et les violences.
J'ai pas le recul pour dire si dans les 50 dernières années il y a eu d'autres trucs comparables ou quoi. Pour moi, le fait que des jeunes maintenant qui ont, en fait mon âge, se mobilisent, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une colère, ils ont des revendications, ils sont pas là que pour casser des banques ou casser des voitures, voilà. Moi, ma façon de me mobiliser, c'est d'aller filmer et de montrer ce qui se passe. Mais comme tout le monde, j'ai mon avis politique, mais en tant que journaliste, j'exprimerai pas, je le garde pour moi. Sur Twitter, j'en parle pas. Et quand je suis sur le terrain, là, comme aujourd'hui, ou quand je vais faire un meeting de tel ou tel parti, j'estime que je dois y aller en étant neutre et en essayant de comprendre pourquoi des gens sont là, pourquoi des gens se mobilisent, pourquoi des gens font telle ou telle action. Et mon boulot, c'est juste comprendre. C'est pas de juger, de dire qu'ils ont raison, s'ils ont tort, c'est juste comprendre.
Clément vend certaines de ses images, mais dans la mesure où son activité journalistique est peu rémunératrice, il n'a pas de carte de presse ou de carte professionnelle d'agence.
Non, je n'ai pas de carte de presse, mais du coup que j'ai une caméra et que j'ai un matériel semi-pro, voire professionnel, j'ai pas trop de soucis avec la police qui voit bien que je suis là pour filmer. Et puis si besoin, bah, je peux leur montrer mes publications et on arrive à passer les barrages et les fouilles sans souci.
Nous commençons à défiler. L'atmosphère est tendue mais reste pacifique. Clément en profite pour bavarder avec des connaissances, dont un homme d'environ 40 ans qu'il vient de croiser. Il s'agit d'Olivier Lavielle. Il est journaliste indépendant et travaille principalement pour des médias américains. J'engage la conversation.
Tu connais bien Clément ?
Oui, on s'est rencontrés le 1er mai à l'occasion des violences policières à l'encontre des journalistes, je crois bien d'ailleurs.
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Oh, j'ai des belles photos, hein. Bah, des tirs directs de grenades de désencerclement sur les journalistes avant de charger sur... Tu te souviens, ouais. Et j'ai des belles photos de ça, hein, où ça n'a aucune... Enfin, on peut pas nier qu'effectivement ce sont des tirs directs sur les journalistes. Des charges contre les services de premier secours aussi, pas mal. On avait fait pas mal de photos qui ont d'ailleurs absolument pas été achetées par le média. Et, oui, parce que ça montrait pas le bon côté de la police, à vrai dire. Et voilà. Mais on avait aussi des belles photos de manifestants qui tapaient lourdement sur la police aussi, hein, je veux dire. Et on s'en est pris plein à la face. Hein. Il y a eu du coup de matraque. J'ai une photo de deux CRS en train de matraquer des journalistes violemment. L'année dernière, il y a quand même pas mal de gens, enfin de journalistes, de collègues qui ont fini à l'hôpital. Hein, il y en a quelques-uns, on sait très bien que ça venait de la police. Les autres, on aura toujours un doute parce que ça vole tellement dans tous les sens. Bien malin, celui qui pourra dire... Enfin, quand on se prend un coup de tonfa, on sait de qui ça vient. Mais quand on prend un projectile, c'est toujours un peu dur de savoir d'où ça vient. Donc, il faut être vigilant. C'est pour ça qu'on a des casques. T'as pas de casque, toi? C'est pas bien. T'as le tien, toi ?
T'as mon sac.
Et du coup, ça fait longtemps que tu couvres les manifestations, les mouvements sociaux
Bah, les mouvements sociaux de grande ampleur, comme ça fait pas longtemps qu'il y en a, au final. Hein, parce qu'il y a toujours des manifestations de gens, de syndicalistes, où ça se passe toujours très bien, qui ont des revendications. Et maintenant, là, on assiste à des manifestations... c'est plutôt des phénomènes de société, au final, maintenant, où les gens n'ont plus vraiment de revendications bien particulières. Ils sont juste dressés, vent debout, contre un modèle de société qui leur convient plus.
Et en termes de violence à l'encontre des journalistes ?
Ça a augmenté jusqu'aux manifestations de mai de l'année dernière. Et étant donné tous les scandales qu'il y a eu, toutes les plaintes qu'il y a eu... Par ailleurs, il y a des organisations d'observation du journalisme mondial qui ont quand même noté que le journalisme en France, la liberté de la presse, c'était plus vraiment ça. Donc il y a eu un petit revirement de situation, je trouve. Tu vois, par exemple, là, je suis passé exprès parce que maintenant, quand tu veux sentir la... Tu veux prendre la température d'une manifestation, tu passes à côté des camions de CRS et tu vois de suite. Il y a eu un moment quand même, les mecs, ils t'arrêtaient. Et moi, ils m'ont carrément menacé de me foutre en taule, enfin de me mettre en garde à vue, etc.
Avant la manifestation, tu veux dire ?
Pas celle-ci, hein, vraiment l'année dernière. Et là, en fait, j'ai fait exprès de passer le long des camions de CRS assez proche d'eux. Et en fait, on s'est dit bonjour et puis ça s'est bien passé. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même un revirement de situation où ils ont probablement reçu des ordres pour leur demander de se calmer avec les journalistes, si vous voulez.
Dans l'ensemble, la violence est restée modérée ce jour-là. Même si pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'était parfois très impressionnant. Des explosions à répétition, des gaz lacrymogènes, des fumigènes, des bagarres entre les manifestants. Et il y a eu aussi un moment de tension au sein de notre groupe quand Laurent Bortolussi, le directeur de l'agence Line Press, est arrivé furieux.
J'ai ma journaliste qui est agressée par un policier.
Ouais, Stéphanie ?
Stéphanie, ouais, ils ont essayé de lui mettre un coup de matraque. Steph, viens là ! Si tu veux la prendre, elle va témoigner. Elle a l'image, elle est identifiée quand même, hein. Ils ont essayé de la frapper.
Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie ? J'étais en train de filmer les CRS, en train de se placer, comme d'habitude, sur mes plans. Et ça n'a pas plu à un CRS qui a essayé de me mettre un coup de matraque, enfin de me menacer avec. Donc j'ai les images, je les enverrai à la Line Press.
Elle ne représente pas de danger pour le policier parce qu'elle ne fait que filmer. Et le policier arrive avec la matraque levée pour lui mettre un coup. Et si elle n'évite pas, elle le prend, quoi. C'est inadmissible. Ça devient une norme en France. C'est inadmissible, je le répète. Il y a 5 ans, on ne voyait pas ça. Hein, moi, je peux te montrer, là. C'est radiophonique. Ça se voit pas, mais tu vois, tu peux expliquer, j'ai un brassard de presse. Et ça doit permettre au policier de se dire, attends, il est là, il a un brassard de presse, a-t-il une carte, que fait-il là ? Aujourd'hui, la seule réponse, c'est qu'on tape d'abord, pas tous évidemment, pas tous, je ne suis absolument pas là pour généraliser, mais l'incident qu'a eu Stéphanie, alors qu'elle était sur le côté, elle démontre quand même une dynamique qui se met en place depuis plusieurs années, qui me gêne énormément. C'est pas fait, on va pas défoncer la tête d'un journaliste, mais au gré d'une charge, d'une avancée, au passage, crac, un petit coup de matraque dans la jambe, quoi. Et ça fait un bleu pendant des semaines, ça empêche de marcher pendant des semaines. Voilà, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je voyais il y a quelques années des commissaires, avant les manifs, qui disent aux policiers, on ne touche pas les journalistes. Ça, c'est quelque chose que j'entends plus. Voilà. Alors, je pense pas qu'il y ait de règles, sauf quand on interpelle volontairement des jeunes journalistes avant les manifestations, comme à leur travail, parce qu'ils ont des masques ou des casques pour se protéger. Et là, effectivement, on les interpelle, on les met en attention plusieurs heures, ce qui est là aussi absolument anormal.
Nous quittons cette manifestation avec le sentiment que les journalistes preneurs d'images, des plus jeunes aux plus expérimentés, se méfient autant des policiers que des militants. La préparation et les stratégies des journalistes s'en ressentent. Ils portent des casques, des brassards de presse, arrivent souvent en groupe et restent ensemble au moment critique.
Une question reste ouverte. Beaucoup d'observateurs s'accordent à décrire les violences dont sont victimes les journalistes comme un phénomène nouveau. Nous avons entendu à l'instant Laurent Bortolussi s'emporter et dire que jamais par le passé il n'a connu ce type de situation. Mais est-ce que tous les vieux de la vieille, entre guillemets, pensent la même chose ?
Je suis allée voir mon ancien professeur, Rémi Barou, journaliste au Monde depuis 1999. Pendant ses cours, il avait fait allusion à un passé de militant engagé et par sa spécialité, l'environnement, je sais qu'il a été amené à couvrir des terrains violents comme la ZAD, la zone à défendre, de Notre-Dame-des-Landes. Je lui ai demandé si, à ses yeux, il était de plus en plus difficile de couvrir les manifestations en France.
Aussi loin que je m'en souvienne, la difficulté de suivre des conflits est liée au moment de tension des partenaires, que ce soit d'ailleurs du côté des manifestants ou que ce soit du côté des forces de l'ordre. En fonction de la situation politique, de la situation sociale, la capacité pour un journaliste de suivre une manifestation est évidemment liée à la situation sur le terrain directement. Au-delà, et donc ça c'est quelque chose qu'on peut vérifier depuis de nombreuses années, dans une autre vie, j'ai fait des manifestations dans les années 70 et 80. La violence était aussi très importante. Et je plaignais les journalistes qui avaient à suivre ces manifestations. Donc c'était de toute façon quelque chose de difficile qui est lié à la bonne volonté ou pas des organisateurs et des forces de l'ordre de laisser le travail se faire.
Je veux dire, est-ce que vous avez vu une évolution dans le, justement dans les violences qu'il peut y avoir à l'encontre des journalistes de la part de, des forces de l'ordre depuis que vous couvrez des manifestations publiques ?
Je pense que le matériel a changé, qu'il y a du flashball maintenant, que le coup peut venir de droite ou de gauche, mais que la violence, pour ce que moi je m'en souviens dans les années 80, elle était déjà très forte. Hein, au moment de Malik Houssiékine, les pelotons de voltigeurs qui arrivaient à dos sur une moto et qui tapaient indistinctement tout ce qui était devant eux, que ce soit un photographe ou un manifestant, c'était quand même archi-violent. En mai 68, j'étais gamin, très gamin, mais il y avait des voitures de journalistes qui étaient retournées, brûlées, et il y avait les forces de l'ordre qui avançaient et qui tapaient, mais alors indistinctement sur tout ce qu'il y avait devant eux, et il y en avait 200 qui avançaient sur le boulevard Saint-Germain en rang et qui faisaient aucune distinction. Donc cette violence, elle est, je pense, intrinsèque au conflit. Dans la manière de gérer de la part de l'appareil d'État cette violence sociale ou politique, elle a toujours existé. Les manifestants eux-mêmes ont parfois été plus violents. Moi, je me rappelle de l'attaque du meeting, alors ça fait ancien combattant, mais l'attaque du meeting d'ordre nouveau en 73, qui a d'ailleurs conduit à l'interdiction et la dissolution de deux organisations, une d'extrême droite et une d'extrême gauche. Mais ça a été d'une violence incroyable. 1000 personnes casquées qui attaquent les forces de l'ordre, ça n'a pas été refait depuis, avec des quarts de police qui brûlaient. Donc, tout est lié fondamentalement à l'acceptation possible de cette violence dans le rapport de force du moment. C'est-à-dire que maintenant, on part du principe qu'une manifestation de la jeunesse scolarisée, il y aura des violences parce qu'il y aura des jeunes qui viendront d'ailleurs, qui profiteront de la manifestation pour se faire des vitrines. Voilà, c'est quelque chose d'accepté, qui est ingéré, y compris d'ailleurs par les médias qui vont attendre ce moment-là pour faire de l'image en disant il y a eu des abribus cassés, des vitrines, c'est grave. Enfin, c'est pas non plus l'hôtel de ville qui brûle. Donc il faut à chaque fois repenser cette question de la violence. Je ne dis pas qu'elle n'est pas moins importante aujourd'hui ou plus importante. Elle est fluctuante. Ça n'est qu'un orage. C'est pas les forces de l'ordre au-delà. La situation plus récente liée à la survenue des attentats, à la mise en place de l'état d'urgence, a évidemment complexifié la tâche des journalistes qui se voient offrir des contraintes quasiment officielles et réglementaires à la poursuite de leur travail. Bah écoutez, par exemple, pendant la préparation de la COP21, qui était un sujet que j'ai longuement couvert, l'interdiction des manifestations de fait par la préfecture et par le ministère rendait le suivi par les journalistes plus compliqué, puisque la manifestation était interdite, et le verrouillage des lieux par les forces de police rendait les choses évidemment très compliquées. il fallait aussi comprendre qu'à ce moment-là, de la même manière d'ailleurs que sur les manifestations et les commeries, que je n'ai pas suivi professionnellement, le degré de violence ou d'affrontement pouvait rendre les choses très difficiles pour les journalistes.
Rémi Barou confirme le phénomène de violence actuelle, mais y voit quelque chose de cyclique.
J'ai aussi rencontré Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis.
Je suis avant tout journaliste politique en presse écrite, donc je n'ai pas une grande habitude des manifestations et j'y vais quand des politiques y sont présents. J'y fais aussi des photos depuis une bonne dizaine d'années et ça m'a amené comme ça à couvrir les dernières manifestations contre la loi travail. Et lors de ces manifestations, j'ai pu effectivement constater des choses anormales par rapport à ce que j'avais pu connaître dans le passé. D'abord, des déploiements policiers extrêmement importants dès les premières manifestations, cherchant parfois à séparer les têtes de cortège des queues de cortège et à réagir très violemment dès le premier débordement. Là, on a pu constater que la présence de photographes pouvait gêner et déplaire aux forces de l'ordre. On a l'autorisation de filmer les forces de l'ordre dans leur opération de maintien de l'ordre. Il y a une directive de la direction de la police nationale qui est très précise là-dessus. Mais manifestement, c'est quelque chose qui ne leur plaît pas toujours. Et on est fréquemment rembarré en termes directs, très très fermes, soit des fois le tutoiement qui nous sommes de dégager, de les laisser faire leur travail. Alors que je n'ai jamais eu l'impression, en tous les cas, qu'on pouvait les gêner en quoi que ce soit. Puis ensuite, il y a eu les filtrages aussi. Il y a eu les filtrages à l'entrée des manifestations où on nous empêchait, puisqu'il y avait des fouilles de sacs, on nous empêchait de venir avec un casque à la main, accroché au sac photo, où on pouvait se faire confisquer des lunettes de protection et les masques qu'on prenait pour les lacrymos. Et je dois dire que là, c'était une véritable loterie. Je n'ai jamais connu de barrage filtrant dans d'autres manifs auparavant. Ensuite, avec les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, quand j'ai pu constater une certaine indistinction dans les manières de viser, de frapper, le brassard de presse ne sert plus à grand-chose. J'ai moi-même, dans une manifestation à la fin, à la dispersion, place de la Nation, le 26 mai, été victime de coups de tonfa dans une charge, alors que je n'étais pas au contact direct au milieu des manifestants qui couraient devant la charge des forces de l'ordre. J'étais sur le côté avec le brassard de presse bien visible et l'appareil photo dans les mains, donc je ne vois pas comment je pouvais être visé autrement que comme un journaliste présent sur le terrain. On m'a frappé sur le ventre. Bon, ce qui, soit dit en passant, ne m'a rien fait, puisque j'avais un téléobjectif qui était sur le ventre, un peu comme un bouclier involontaire, et que c'est, par contre, ce téléobjectif était définitivement HS et a dû être remplacé par la suite.
Les témoignages de ces deux journalistes aguerris sont complémentaires. Rémi Barou rappelle que la violence est intrinsèque aux mouvements sociaux, aux manifestations et que son intensité fluctue. Il ajoute que par le passé, elle a pu être bien plus forte qu'aujourd'hui. Michel Soudé, quant à lui, précise qu'il existe de nouveaux outils, de nouvelles méthodes qui changent la donne et obligent les professionnels de l'information à se protéger d'une manière différente, tout en les exposant à des relations plus tendues avec les forces de l'ordre. Une analyse déjà confirmée par plusieurs sources. Notre enquête continue et va connaître quelques rebondissements, notamment le 23 avril où deux journalistes ont été victimes de violences. Restez avec nous.
L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Atelier des médias, suite et fin de notre enquête sur les violences contre les journalistes en France. À ce point de notre exploration, nous avons la certitude qu'un problème grave et minimisé existe concernant les dangers auxquels s'exposent les personnes souhaitant couvrir, photographier, filmer les manifestations publiques en France. Les ONG, les journalistes ayant enquêté sur le sujet, les professionnels rencontrés sur le terrain, les journalistes ayant couvert les conflits sociaux des 3 ou 4 dernières décennies, tout le monde est formel. Concernant la nouveauté de ce phénomène, on peut penser que les violences au cours des manifestations à l'encontre des journalistes ont fluctué durant les 30 ou 40 dernières années, mais qu'une kyrielle d'éléments permettent de dire que cette situation est inédite. Nous sommes maintenant à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. J'ai, je dois l'admettre, le sentiment que nous enquêtons sur un phénomène qui pourrait n'avoir été que passager. Conjonction de nouveaux profils journalistiques nés à la faveur de Periscope ou de Facebook Live, d'omniprésence de la vidéo avec les téléphones portables, d'état d'urgence, de surmenage des forces de l'ordre, d'assassinats de policiers, à Magnanville notamment, avec une crainte pour les agents d'être montrés, partagés, indexés sur les réseaux sociaux. Contexte auquel se superposent des mouvements sociaux eux-mêmes indisciplinés et parfois violents. Des signes laissent toutefois penser que la situation n'a pas vocation à s'améliorer. Persistance de la menace terroriste, multiplication des attentats contre les policiers, radicalisation des mouvements de contestation sociale et arrivée de nouvelles techniques de maintien de l'ordre dénoncées pour leur dangerosité, leur violence et leur inefficacité.
Bonjour à tous, les bureaux de vote.
Le 23 avril arrive, journée de vote en France. À Hénin-Beaumont, dans le Nord, des centaines de journalistes viennent voir Marine Le Pen glisser son bulletin dans l'urne. Parmi eux, il y a Jacob Christ, photojournaliste connu pour son travail sur les militantes féminines.
Le matin, j'arrive sur les lieux de la mairie. Là, on est quand même quelques centaines de journalistes. À partir d'une vingtaine de minutes, donc sur place, Steve Briouat arrive, donc député européen et maire d'Hénin-Beaumont. Il fait un petit tour devant l'école, rentre, ressort, et là, donc, je le suis comme mes collègues pour réaliser des images. On avance un petit peu, on va dans une rue adjacente, là, il s'arrête, il a autour de lui un certain nombre de collègues qui le filment et l'interview. Et puis, à ce moment-là, sur ma droite, je vois au loin une limousine apparaître et je vois une activiste féminine descendre. À partir de ce moment-là, je détourne mon appareil photo et fais des images. Et au bout de 15 secondes, je suis saisi de chaque côté par deux personnes. Je me retourne, je leur demande « Qui êtes-vous ?» Et là, je vois qu'elles sont déterminées, ne me disent rien, ne se présentent pas. Et là, je me dis, ça peut être des militants ou des gens qui, effectivement, ont prévu de me nuire physiquement, peut-être me passer à tabac, me voler mon matériel. Donc, je crie, j'appelle la police, tout de suite. Je leur demande, qui êtes-vous ? J'appelle la police. Puisque, bon, jusqu'à preuve du contraire, moi, la police, quand même, nous protège. Donc, à cela, je résiste très fortement, mais sans jamais les insulter ni porter aucun coup. Et après, j'ai la face contre terre, donc là, sur le bitume, les mains en sang, puisqu'elles ont frotté, elles ont été raclées contre le béton. Et là, à ce moment-là, c'est là où Steve Briouat, visiblement, bouge, reste pas, peut-être que ça le dérange un petit peu, justement, mais crie. Donc, il se déplace, la corde de journaliste se déplace avec lui, mais en me voyant à terre, et c'est les images qui sont le plus passées dans les médias, comme ça, il y en a quelques-uns qui viennent quand même me photographier, me filmer.
Jacob ne s'en cache pas. Il était présent à Hénin-Beaumont pour photographier, entre autres, l'action des phénomènes dont il avait été informé par avance au même titre que des grands journaux ou que l'AFP. Après cette empoignade, il est remis à deux policiers en uniforme qui le menottent pour l'emmener en compagnie de 6 militantes Femen au commissariat de Lens. Une heure après son arrestation, à 11h30, il est emmené en cellule. Ses mains sont toujours en sang et il ne sait pas ce qu'on lui reproche.
Je reste en cellule jusque 17h. Bon, voilà. Alors après, je vois un peu les policiers passent. On me remplit une petite bouteille d'eau que j'avais là. Voilà. J'attends. Vers 17h et quelques, on vient me faire signer un papier pour me dire que je suis accusé de complicité d'exhibition sexuelle. Là, je tombe des nues, puisque globalement, ça voudrait dire qu'à partir du moment où je photographie, dans le cadre de mon métier, une action ou un événement qui peut tomber sous le coup de la loi, je peux donc être accusé de complicité. J'imagine donc à ce moment-là qu'on peut finalement arrêter quasiment la plupart des photoreporters.
Jacob Christ est entendu une première fois à 22h30. Il peut alors exposer sa version des faits, expliquer qu'il était là pour couvrir le scrutin présidentiel et également l'action des Femen qu'il suit depuis longtemps comme photographe. Le commissaire lui précise quant à lui qu'en plus de complicité et d'exhibition, les deux policiers qui l'ont arrêté ont parlé de véhémence de Jacob à l'encontre de Steve Briouat. C'est donc à ce moment que Jacob acquiert la certitude que les deux hommes qui l'ont arrêté étaient des policiers.
Donc là, ils me disent, non, mais les agents disent qu'ils se sont présentés. Mais bon, après, là, j'avais pas l'impression qu'il y croyait vraiment à tout ce qu'il disait là, finalement. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on tâtonnait un petit peu, mais que finalement, il y croyait pas beaucoup. Donc, je fais ma déposition. Je commence à prendre conscience que c'est quand même assez grave et que sciemment, on veut me porter préjudice. Sciemment, on veut me donner un avertissement. C'est comme ça que je le prends. Voir que ça aille plus loin, parce que là j'ai confiance que je vais passer la nuit, que je vais faire mes premières 24 heures de garde à vue, et qu'effectivement il cherche à tout prix la petite faille ou la petite bête dans le système pour m'inculper de quelque chose.
Le photojournaliste Jacob Christ passe la nuit du 23 au 24 avril au commissariat. Le lendemain matin, il a rendez-vous en visioconférence avec le procureur de la République.
Là, le procureur, donc on est lundi matin, dit qu'il a pris connaissance du dossier. Celui-ci me dit sensiblement les mêmes choses que la veille, sauf que là, contrairement à la veille où je n'étais accusé que de complicité d'exhibition sexuelle, là je suis accusé de complicité d'exhibition sexuelle et de rébellion.
Le photojournaliste est alors reconduit en cellule où il attendra toute la journée. Vers 20h30, il apprend qu'il va être libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.
Donc on m'a privé de liberté pendant 36 heures, on m'a empêché de faire mon travail par des gens qui ne se sont pas donc présentés, par des gens qui l'ont fait de manière véhémente pour le coup, et même violente. Clairement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer, puisque ça crée là un précédent. Et qu'en plus, justement, sur cette affaire, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas, du début à la fin, commis de faute, on va dire. Le fait même qu'on m'arrête ne m'a pas mis dans un état qui m'a poussé à commettre une faute. Mais j'imagine d'autres cas où si des cas comme ça se produisent régulièrement, ce que ça peut donner, qu'au final la victime devient finalement le coupable et des suites que tout ça peut donner. Puisque je pourrais être victime, mais je pourrais être une victime à qui on peut reprocher, par exemple, de pas avoir de papier, peut-être. Une victime à qui on pourrait reprocher d'avoir été insultant à un moment donné. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il adviendrait? Donc aujourd'hui, à minima, ce qui est pour moi important, c'est au moins d'en parler, mais d'en parler avec justesse. C'est notamment pour ça que j'ai voulu, dès le lendemain, avant de répondre à qui que ce soit, écrire un texte assez juste, et surtout qui ne pouvait pas stigmatiser les policiers en général, pas stigmatiser d'hommes en fait finalement. Et surtout, pas non plus mentir, pas projeter. Il y a des choses que je ne sais pas, je ne sais pas. Après, j'ai demandé aux avocats qui me défendaient, j'ai demandé à RSF qui m'a contacté, ce que globalement, ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est en dehors de ma personne, c'est par rapport justement à un précédent, de savoir si effectivement, il y a moyen d'agir. Premièrement, pour que ces choses-là ne se reproduisent pas forcément, pour qu'on soit également informé sur les mécanismes. Et ça, aujourd'hui, on me dit effectivement que c'est compliqué, de par la nature de l'arrestation et du fait qu'on m'ait libéré sans aucune charge.
Le cas de Jacob Christ n'est pas isolé. En octobre 2016, 4 journalistes anglais sont arrêtés à Calais et placés en garde à vue pour port de masque à gaz prohibé. Ils sont relâchés au bout de 24 heures et reconduits à la frontière. Le 15 février 2017, Haïdé Sabéran, de Libération, est arrêté brièvement à Calais, emmené à la police aux frontières, puis relâché. En tout, 6 professionnels de l'information ont été interpellés, privés de liberté, dans le Pas-de-Calais entre 2016 et 2017. Nous avons tenté de contacter la préfecture de ce département sans succès.
Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour, mais ils sont...
Revenons au 23 avril. Nous sommes cette fois à Paris. Noman Cadoret est journaliste et photographe. Il s'est attiré une audience assez importante sur les réseaux sociaux en réalisant des vidéos en direct de manifestations publiques. Nous sommes dans la nuit, juste après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle. Des manifestations spontanées ont éclaté dans l'est de Paris, d'abord à Bastille, puis à République, où Noman commence un direct Facebook.
Voilà, la place de la République est complètement gazée. On a reçu plein de capsules à l'instant.
Comme beaucoup de figures de sa génération, Noman Kadoré est engagé, notamment contre les violences policières. Dans ses vidéos, son ton, loin d'être policé, tranche avec le détachement et la distance journalistique traditionnelle.
Hauteur de tête, vous venez de voir là, ce que vous venez de voir, c'est complètement illégal. C'est complètement interdit. Je viens de tirer le LBD, lanceur de balles de défense, à hauteur de tête, c'est complètement interdit.
Ce soir-là, quand Noman voit et filme en même temps un groupe d'hommes en civil utilisant des LBD, des lanceurs de balles de défense, d'une manière qu'il estime dangereuse, il s'approche d'eux et les arme.
Vous êtes policier, monsieur, je vois pas de brassard, il faut une brassard normalement.
Je peux voir la carte de presse.
Il n'y a pas de carte de presse pour les photographes indépendants. Est-ce que vous êtes policier, monsieur? J'aimerais voir votre carte de police ou votre brassard.
À l'image, il est très clair que ces hommes ne portent pas d'insigne permettant de savoir s'ils sont policiers. On voit également qu'ils tirent avec leur LBD vers une foule au loin en tenant leurs armes assez droits, ce qui semble dangereux puisque ces outils sont imprécis et ne doivent surtout pas viser la tête. Le ton de Noman change au cours de la conversation, vous l'aurez entendu, c'est parce qu'un des hommes en civil frappe violemment le téléphone du vidéaste. Après cette montée de tension, Noman Kadoré s'éloigne et continue à filmer et commenter ce qu'il voit. Quelques instants plus tard, les hommes en civil et sans brassard reviennent vers lui.
Normalement, il faut savoir que les policiers...
Faut arrêter, monsieur, avec votre téléphone.
Pourquoi, monsieur? Je suis journaliste. J'ai le droit de faire de l'image.
C'est un contrôle d'identité.
Oui, il n'y a pas de problème. Le contrôle, il n'y a pas de soucis.
La scène est, comme vous l'entendez, très violente. Noman accepte de se soumettre à ce contrôle d'hommes qui se présentent donc comme des policiers. On ne comprend pas, en revanche, pourquoi un des agents agrippe le téléphone du jeune journaliste qu'il ne cesse d'ailleurs de tutoyer. Le direct est finalement interrompu quand Noman accepte de lâcher son téléphone. Cette première vidéo a été vue plus de 50 000 fois. Celle qui la suit de quelques minutes comptabilise 400 000 vues sur Facebook. On y voit un jeune homme, Noman, qui a l'air sonné et apeuré.
Voilà, c'est rare que je fasse des vidéos dans lesquelles je me mets en scène, des lives en tout cas dans lesquelles je me mets en scène. Mais ce soir, ce qui vient de se passer, c'est trop grave et c'est inadmissible.
Dans cette seconde vidéo, Noman explique dans le détail et à chaud ce qui vient de lui arriver. Constance Léon, de l'atelier des médias, est allée recueillir son témoignage quelques jours plus tard à froid. Noman Kadoré nous raconte ce qu'il a vécu dans les instants qui ont suivi son interpellation à laquelle on a assisté dans la vidéo Place de la République.
Ils m'emmènent, on arrive dans une ligne de CRS, les CRS s'écartent, donc je comprends à ce moment-là et ça confirme qu'ils sont policiers, parce que sinon les CRS ne se seraient pas écartés pour des simples civils. Et là, il me sort derrière la ligne de CRS, il me couche au sol sur une petite marche d'un commerce. Et alors qu'ils me tiennent, ils commencent à me menacer, à m'insulter. Les journalistes comme vous, vous nous faites chier. On ne veut pas avoir notre tête sur les réseaux sociaux. On ne veut pas se retrouver sur une vidéo YouTube. Et ils me jettent mon téléphone sur moi et ils me demandent de le déverrouiller et d'effacer les vidéos. Donc je leur montre que j'efface les photos. J'avais fait quelques photos pour les réseaux sociaux de cette manifestation. Donc je leur montre que j'efface. Et ils me disent à plusieurs reprises, te fous pas de ma gueule, on sait que t'as pas effacé la vidéo, montre-nous la vidéo, où est-ce qu'elle est? Et je leur dis que je peux plus leur montrer parce qu'elle est effacée. À ce moment-là, ils ignorent qu'en fait c'était un live Facebook et que du coup la vidéo n'est pas enregistrée dans ma pellicule mais qu'elle est enregistrée sur mon profil Facebook. Je leur explique que s'ils veulent, je veux bien effacer tout le contenu image de mon téléphone parce qu'à ce moment-là, ils mettent une telle pression que je sais pas c'est quoi la suite en fait. Quand on a deux policiers comme ça en civil couchés sur soi qui ont chacun sorti une matraque à la main et qui sont en train de me menacer dans le cadre de ma profession, je ne sais pas si après ces pressions-là, ça va se finir dans le fourgon qui était juste à côté. Est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, me gazer par plaisir, me taper par plaisir? Et donc je leur dis que je veux bien effacer mes images. Et je ne suis pas en mesure à ce moment-là de leur expliquer que ce qu'ils font, c'est illégal. Alors que je ne parle pas, ils me disent à plusieurs reprises, ferme ta gueule, ferme bien ta gueule, machin. Bref. Là-dessus, donc ils me rendent mon téléphone en ayant compris qu'il n'y avait plus les images en question. Et ils me demandent d'allumer mon appareil photo. Et ils veulent regarder mes photos. Ils commencent à regarder les photos. Et il se trouve que la première photo qu'ils voient, c'est une photo en fait, de cette équipe-là en train de tirer. Et donc là, voyant ça, il se retourne vers moi, il me demande si je me fous de sa gueule, enfin, il me dit tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette photo, tout ça, et je leur explique que je veux bien l'effacer. Il m'attrape à l'épaule, il me frappe très violemment au visage avec mon propre boîtier. Et donc j'ai eu ensuite une blessure sur la lèvre, dans la bouche et au niveau de la cloison nasale. J'ai eu 3 jours d'ITT à la suite de cette blessure. Et une fois qu'il m'a mis ce coup et donc que je suis au sol avec un début de goutte de sang dans la bouche, il ouvre le clapet de carte mémoire, il prend ma carte mémoire, Il me jette mon appareil photo sur moi, il me rend mon sac à dos et il me dit « vas-y maintenant casse-toi et si on te revoit ». Il me explique que tous ses collègues m'ont identifié, donc que si pour le coup il me revoit sur le dispositif, là je vais vraiment avoir des soucis.
Noman Kadoré a porté plainte pour les faits qu'il nous a décrits. Son dossier est en cours d'instruction. Son histoire fait en tout cas écho à de nombreux autres témoignages de photographes contraints d'effacer leurs images ou privés de leur carte mémoire par les forces de l'ordre. L'arrestation et la garde à vue de Jacob Christ ainsi que l'agression de Noman Kadoré nous confortent dans l'idée que les dérapages et les violences observées à Rennes, à Calais, durant Nuit debout ou à l'occasion des manifestations contre la loi travail n'ont pas dit leur dernier mot. Arrive la manifestation du 1er mai 2017 à Paris, entre la place de la République et celle de la Nation. Tout le monde a vu l'image AFP de ce CRS transformé en torche humaine par un cocktail Molotov. Si, comme nous, vous suiviez les événements sur Twitter ou Facebook, vous avez probablement vu passer également plusieurs images ou messages de journalistes blessés ce jour-là. Nous en avons rencontré plusieurs. Stéphanie Roy, tout d'abord, elle travaille pour Line Press.
Et nous sommes plus nombreux malgré le filtrage plus serré autour de la place de la République.
Il y a eu comme des heures qui ont débuté assez vite sur le boulevard Beaumarchais. Donc je faisais un plan en fait sur la police qui recevait toutes sortes de projectiles. Et je sens le Black Bloc qui recule vers Bastille, qui commence à avancer. Donc je ne voulais pas louper non plus un plan. Et là, je coupe la caméra pour reprendre un autre plan en fait sur les Black Blocs pour avoir les deux versions en fait. Et au moment où je me retourne, je sens comme un gros coup de poing. Au début, je pense que c'est un policier peut-être qui me pousse parce que je le gêne, parce qu'il y avait des mouvements en fait entre les policiers, les manifestants. Je le sens comme un gros coup de poing. La douleur vraiment m'a pas assommé, mais m'a projeté presque à terre, quoi. J'étais vraiment pliée en deux. Et là, j'ai compris en fait que c'était vraiment un coup de flashball ou de grenade des encerclements que j'avais prises en tout cas. Donc j'ai essayé au plus vite en tout cas d'appeler mon collègue Clément, qui travaille aussi pour l'agence, pour lui signifier que j'étais blessée en fait.
Henry Langston est reporter pour Vice UK, lui aussi a été blessé boulevard Beaumarchais.
J'ai ressenti une douleur aiguë dans ma jambe. J'ai eu l'impression que j'avais été touché par quelque chose. Je crois que c'était un tir de flashball, donc de balle en caoutchouc. Je me suis dit, bon, ok, ce sera juste un bleu, ce n'est pas très grave. 5 minutes plus tard, je sentais quelque chose d'humide. J'ai soulevé mon pantalon et j'ai vu que ma jambe saignait beaucoup. Mes collègues et moi, nous nous sommes écartés du cortège pour prodiguer les premiers soins. J'ai entouré ma jambe de bandages. Il y avait une coupure assez profonde et large. Nous avons réussi à arrêter les saignements. Nous avons continué à filmer pendant 2h30 à peu près. Plus tard, ce soir-là, vers 23h, je suis allé dans un hôpital à Paris. Ils m'ont fait 3 points de suture pour recoudre le trou sur ma jambe.
Le photographe Stuf Pic était également présent ce jour-là, boulevard Beaumarchais.
J'étais dans un groupe avec pas mal de journalistes de presse. On s'est retrouvés acculés contre un mur, le mur de la Société Générale. On gueulait presque puisqu'on était en groupe et qu'il y avait juste derrière nous un autre journaliste qui était tombé à l'instant d'avant. Et là, il y a eu une charge de CRS, on a essayé de reculer, on n'a pas été assez rapide. Je me suis pris un coup de bouclier. Jusque-là, je me suis dit que c'était normal. Enfin, ils essayaient vraiment de nous pousser. Et là, j'ai vu le même CRS qui a essayé de mettre un coup de matraque à mon appareil photo pour le casser, en fait, tout simplement. Donc j'ai tourné la main et là, c'est ma phalange qui a tout pris. J'ai instantanément su qu'elle était cassée. Mon doigt a pris une forme assez étrange. Les médecins, ils m'ont dit que j'ai une quadruple fracture de la phalange du majeur, plus mon os est en miettes en fait. Il n'y a pas d'autres dégâts, mais je vais être immobilisé au moins un mois, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir prendre de photos.
Impossible de savoir si les 5 violences constatées contre des journalistes ce 1er mai 2017 étaient intentionnelles. Même chose à Nantes, le 7 mai dernier, où 3 photographes ont été blessés par une grenade de désencerclement. Idem le 8 mai 2017 à Paris, où 5 journalistes ont reçu des coups durant la manifestation contre, je cite, « le précariat généralisé au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron ». Impossible de connaître les intentions de forces de l'ordre au cœur de mouvements qui leur sont violemment hostiles. Impossible inutile finalement, tant les chiffres parlent d'eux-mêmes et indiquent des dysfonctionnements structurels. Nous avons sollicité des entretiens avec la direction de la police nationale, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris, les préfectures d'Ille-et-Vilaine et du Pas-de-Calais, ainsi que l'IGPN, la police des polices. Aucune de ces entités n'a souhaité nous répondre.
L'atelier des médias.
J'ai également pris contact avec des représentants de la police, plus précisément des compagnies républicaines de sécurité, les CRS. David Michaud est secrétaire national CRS pour l'UNSA Police. Il a accepté de me rencontrer. Je lui ai exposé les résultats de notre enquête. Voici sa réaction.
Alors nous, le ressenti qu'on a, c'est absolument pas de différencier un journaliste ou un manifestant. Le problème, il est là, justement, de ne pas pouvoir identifier la personne qu'on a en face de nous. N'importe qui prend son téléphone et vous filme. Et c'est, ça devient difficile, parce qu'on a des gens entre les manifestants et nous, et on ne sait plus du tout à qui on a affaire.
Pour le CRS David Michaud, il est donc difficile de différencier les journalistes des manifestants dans le feu de l'action, ce qui mène à des blessures des journalistes. Je lui demande ensuite s'il confirme le fait que du matériel de protection type masque à gaz est retiré à des journalistes sans carte de presse.
Oui, on peut le comprendre. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'on a réellement affaire à un journaliste ? Il y a toujours le principe de la précaution. On ne sait pas qui on a affaire. Journaliste, manifestant.
Qu'en est-il maintenant de l'usage d'armes intermédiaires ? Y a-t-il des abus liés aux lanceurs de balles de défense ou aux grenades de désencerclement ?
Vous savez, nous, on ne fait pas une manifestation pour les journalistes. On ne gère pas une manifestation pour les journalistes. Les journalistes se retrouvent entre les forces de l'ordre et la manifestation. À un moment ou à un autre, vous avez des personnes qui vous agressent. On ne peut pas dire, on ne va pas jeter une grenade. Parce qu'un journaliste, regardez ce qui s'est passé le 1er mai, mon collègue qui a été mis en feu. Pourquoi ? Parce qu'on l'a laissé venir au contact, la personne. Donc la grenade de désencerclement va permettre de repousser plusieurs personnes. On ne vise absolument pas le journaliste. On vise le manifestant ou les manifestants qui viennent au contact. S'il y a un accident, la plupart du temps, c'est un événement, c'est une balle en caoutchouc qui a rebondi sur quelque chose. Ça peut arriver.
Qu'en est-il enfin de l'omniprésence d'images ? Plusieurs observateurs m'ont fait part de l'exaspération des policiers filmés de toutes parts durant les opérations de maintien d'ordre.
Franchement, on se dit, mais qu'est-ce qui va sortir ?
C'est ça.
Et on a une réelle crainte sur ça. On a la peur de retrouver notre photo sur les réseaux sociaux, partout.
Dans l'ensemble, David Michaud réfute les accusations de ciblage des journalistes par les forces de l'ordre lors de manifestations en France. Il confirme en revanche quelques éléments de notre enquête, le rôle de la carte de presse, les dangers liés à certaines armes imprécises et le ras-le-bol de l'omniprésence d'images. Avant de conclure cette enquête, nous souhaitions avoir une idée plus précise de l'ampleur des violences faites à l'encontre des journalistes. Je vous l'ai dit, j'ai demandé à Mathias Virilli de recenser toutes les situations connues où des professionnels ont subi des violences alors qu'elles, ils couvraient des manifestations publiques en France. Salut Mathias.
Bonjour Ziad. J'ai pu recenser 124 cas de violences policières à l'encontre de journalistes depuis 2014. Ces violences concernent 87 professionnels différents parce que certains ont été touchés plusieurs fois. Avec 69 violences, l'année 2016 a été la plus dure pour la couverture des manifestations. Il y a eu 8 cas de violences en 2014, 19 en 2015 et 24 depuis 2017.
Et donc 69 en 2016, l'année des manifestations contre la loi travail. Est-ce qu'on a une idée de la typologie de ces violences ? Qu'est-ce que tu as considéré être une violence ou ne pas être une violence ?
Ça peut être des insultes, des menaces ou de l'intimidation. Il y a aussi de la violence physique. Les coups de matraque sont les plus courants, j'en ai compté 31 cas. Il y a 22 situations où des journalistes ont été touchés par des grenades de désencerclement, 11 par des grenades lacrymogènes, 9 tirs de balles de défense, 5 coups de bouclier et 4 coups de pied. Sur tous les témoignages que j'ai pu recueillir, plus de 2/3 des journalistes s'estimaient pris pour cible. C'est difficile à vérifier, mais il y a quoi qu'il en soit de la méfiance entre reporters et forces de l'ordre.
Merci Mathias, on peut retrouver ton travail, ton recensement sur le site de l'Atelier des médias. Au terme de cette enquête, nous pouvons affirmer que Les manifestations contre la loi travail en 2016 ont révélé une dégradation des relations entre les journalistes et les forces de l'ordre. Une dégradation qui remonte au moins à 2014 et perdure en 2017. Pour des raisons liées à leur support, l'image, les photographes, les caméramans sont les plus susceptibles de recevoir des coups délibérément ou accidentellement lors de manifestations. Le statut des journalistes joue un rôle et plus particulièrement la possession ou non de la carte de presse. Un problème qui nécessite une prise de conscience et un traitement urgent. Il n'est malheureusement pas rare de voir un journaliste avec carte de presse balayer d'une main dédaigneuse ce problème de violence par un « ils n'ont même pas la carte de presse ». Ce phénomène de violence passe quasiment inaperçu, notamment parce que les manifestants blessés légitimement ou non par les opérations de maintien de l'ordre ne sont pas comptabilisés correctement en France, ce qui empêche par ailleurs d'évaluer l'efficacité et la dangerosité des techniques de maintien de l'ordre. Les évolutions technologiques et médiatiques impliquent une omniprésence de l'image qui ajoute du stress aux policiers et influe probablement sur leur gestion des manifestations. Les violences contre les journalistes lors de manifestations publiques en France, c'était une enquête de l'Atelier des médias. Ziad Malouf, Constance Léon, Simon Decreuse, Mathias Virilli, Marie Stéphanie Servos avec l'appui de Thomas Status et Sarah Lefebvre de Street Press. La version longue de cette émission est à retrouver sur le site de RFI et sur l'Atelier des médias. Salut à toutes et à tous.